Le Monde Aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 17 mai 2024. Élection de Mahamat Debitno au Tchad. Washington salue une nouvelle étape dans le processus de transition, mais appelle à plus d'ouverture politique. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a remis en question la présence militaire de la France, estimant qu'elle empiétait sur la souveraineté de Dakar. Au Kenya, nouveau recours en justice contre le déploiement de policiers en Haïti. La délégation américaine présente au Niger a poursuivi ce vendredi avec les autorités de Niamey les discussions en vue du retrait des forces américaines du pays.
Nous allons continuer à nous engager auprès des partenaires de la région en ce qui concerne le terrorisme et la lutte contre la menace terroriste parce que, encore une fois, je pense que nous pouvons tous travailler ensemble pour faire face à ces menaces très réelles.
Retour sur les enjeux et les perspectives de ce retrait dans la partie magazine. Le sommet arabe appelle à un cessez-le-feu à Gaza et à l'arrêt des déplacements forcés. Ne manquez pas notre page fort ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les États-Unis appellent le Tchad à plus d'ouverture dans la vie politique après que le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte, a remporté l'élection présidentielle censée mettre fin au régime militaire. Nani Talani.
Bien qu'il y ait eu des lacunes inquiétantes, nous saluons les étapes importantes du processus de transition au Tchad, notamment l'élection et les pourparlers avec les insurgés, a déclaré ce jeudi le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. Dans son communiqué, il a souligné que la limitation de l'observation du scrutin par la société civile et les partis d'opposition nuit à la transparence. Nous exhortons les autorités tchadiennes à travailler avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques et les organisations de la société civile, pour répondre à toutes les préoccupations liées à cette élection et renforcer l'inclusivité et la transparence du cadre institutionnel tchadien pour les futures élections, a-t-il poursuivi. Les États-Unis se sont félicités de la tenue de l'élection, mais se disent préoccupés par l'exclusion de nombreux rivaux de M. Déby. Les résultats définitifs du scrutin du 6 mai donnent 61% des voix à M. Déby, dont le père a dirigé le Tchad pendant 3 décennies, jusqu'à sa mort en 2021.
Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a évoqué la possibilité de fermer les bases militaires françaises au Sénégal. C'était à l'occasion d'une conférence sur les relations entre l'Afrique et l'Europe avec l'opposant français Jean-Luc Mélenchon. Davantage avec Alexandrine Olognon.
Ousmane Sonko a précisé s'exprimer en tant que chef de parti et non du gouvernement dans un hémicycle de l'université de Dakar. Sous les acclamations répétées, le Premier ministre s'est livré à une vive critique de l'action passée et récente de l'Occident, de l'Europe et de la France, y compris pendant les 3 années de confrontation avec l'ancien président Macky Sall. Il a affirmé la volonté d'une coopération fondée sur le respect mutuel et la reconnaissance des aspirations légitimes de chaque nation à la souveraineté. Plus de 60 ans après notre indépendance, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française bénéficie encore de plusieurs bases militaires dans notre pays, a-t-il déclaré. Sonko a eu des mots amicaux à l'égard des pays voisins, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont repoussé les troupes françaises et se sont également détournés du bloc ouest-africain de la CEDEAO. Il a également abordé la question du franc CFA, monnaie adossée à l'euro, les accords pétroliers et gaziers et les droits des LGBTQ.
Le Nigeria et le Sénégal se sont engagés à promouvoir la démocratie en Afrique de l'Ouest lors de la première visite officielle au Nigeria du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu, cité jeudi dans un communiqué de la présidence, a exhorté son homologue sénégalais à faire revenir au bercail les pays ouest-africains, frères touchés par des renversements anticonstitutionnels de gouvernement en référence au Niger, au Burkina Faso et au Mali, qui ont annoncé en début d'année leur décision de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après Abuja, Bassirou Diomaye Faye a mis le cap ce vendredi sur Accra, où son homologue ghanéen lui a également demandé de jouer un rôle dans la résolution de la crise régionale avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La Banque mondiale va reprendre dans les jours à venir ses décaissements pour relancer d'importants projets au Niger interrompus après le coup d'État contre le président élu Mohamed Bazoum en juillet 2023. D'après l'institution, l'important projet du barrage hydroélectrique de Kandaji à 180 km à l'ouest de Niamey sur le fleuve Niger pourra notamment bénéficier de ces décaissements. Une partie de l'argent ira à la défense et à la sécurité du pays, confronté depuis des années à des violences djihadistes récurrentes et meurtrières perpétrées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, selon le régime militaire nigérien. Au Kenya, un parti d'opposition a déposé un recours devant un tribunal de Nairobi pour empêcher le déploiement imminent de policiers kenyans en Haïti, déploiement prévu dans le cadre d'une mission multinationale dans ce pays des Caraïbes en proie à la violence des gangs. Mouamadou Mfa.
Les dirigeants du parti d'opposition Alliance Troisième Voie, Third Way Alliance, Ekuru Okot et Miruru Waweru ont déposé jeudi une nouvelle requête devant la Haute Cour de Nairobi. Ils invoquent un outrage au tribunal, affirmant que le gouvernement s'apprête à concrétiser l'opération que ce même tribunal avait jugée inconstitutionnelle, illégale et invalide le 26 janvier. Les requérants sont informés de manière fiable que le déploiement peut être effectué à tout moment, à partir de maintenant, mais au plus tard, le 23 mai 2024, d'où l'urgence de cette requête, souligne-t-il dans leur recours. Une source gouvernementale haïtienne avait indiqué début mai qu'un premier contingent de 200 policiers kenyans devait arriver le 23 mai. Ce déploiement coïnciderait avec la visite d'État du président William Ruto aux États-Unis, soutien financier et logistique majeur de cette mission, dont le Kenya a accepté de prendre la tête, mais à laquelle de nombreux pays n'ont pas souhaité participer. Nairobi s'est dit prêt à envoyer jusqu'à 1 000 000 de policiers. D'autres pays doivent également contribuer à cette force, parmi lesquels le Bénin, le Bangladesh et le Tchad.
Les législateurs du Parti démocrate du président Joe Biden ont accusé aujourd'hui le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, de manquer de respect à l'Afrique après avoir refusé d'inviter le président kenyan, William Ruto, à s'adresser au Congrès lors d'une prochaine visite à Washington. Le président Biden a invité le principal allié régional des États-Unis la semaine prochaine pour une visite d'État, le voyage le plus prestigieux qu'un dirigeant étranger puisse effectuer dans la capitale américaine, qui comprend un accueil cérémonieux et un dîner officiel à la Maison-Blanche. Les secours sud-africains ont mis fin aujourd'hui à leur opération de recherche dans les décombres d'un immeuble en construction qui s'est effondré il y a 11 jours dans le sud du pays, faisant 33 morts selon un dernier bilan. Au total, 29 personnes ont été tirées vivantes des décombres. Les autorités avaient préalablement estimé le nombre de personnes présentes, dont principalement des ouvriers travaillant sur le chantier, à 81.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le commandement central des États-Unis a déclaré aujourd'hui que les camions transportant de l'assistance humanitaire ont commencé à débarquer via la jetée flottante construite par l'armée américaine au large de la bande de Gaza. Des organisations des Nations Unies et des ONG alertent régulièrement des risques de famine dans l'enclave palestinienne. Après plus de 6 mois de conflit, la construction de ce port humanitaire par l'armée américaine avait été annoncée en mars par le président américain Joe Biden. L'affaire de génocide portée contre Israël devant la Cour internationale de justice, dans laquelle l'Afrique du Sud demande à la juridiction de l'ONU d'ordonner un cessez-le-feu à Gaza, est déconnectée de la réalité. C'est la déclaration faite par Israël. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'Afrique du Sud présente à la Cour pour la 4e fois un tableau complètement déconnecté des faits et des circonstances, a déclaré Gilad Noham, procureur général adjoint chargé des affaires internationales pour Israël, ajoutant qu'une guerre tragique est en cours mais qu'il n'y a pas de génocide. Pretoria a déclaré devant la CIJ que le génocide commis par Israël a atteint un niveau horrible, évoquant des fosses communes, des actes de torture et un blocage de l'aide humanitaire. L'Afrique du Sud souhaite que la Cour ordonne à Israël de cesser immédiatement toutes les opérations militaires à Gaza, y compris à Rafah, de permettre l'accès humanitaire, entre autres. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié de décisive la bataille de Rafah. Des combats opposent ce vendredi l'armée israélienne au Hamas dans cette bande de Gaza. Après des jours de blocage de l'aide humanitaire, un premier déchargement a commencé sur la jetée provisoire mise en place par les États-Unis. Les dirigeants arabes ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.
Le président russe Vladimir Poutine était ce vendredi dans la ville de Harbin, dans le nord-est de la Chine, au deuxième jour d'une visite centrée sur la promotion du commerce entre les deux pays et la recherche d'un soutien accru à la guerre en Ukraine. Arrivé jeudi matin à Pékin, le dirigeant russe réalise son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine. En un peu plus de 6 mois, il a été reçu par le président chinois Xi Jinping et les deux hommes ont défendu ensemble l'axe Pékin-Moscou comme un facteur de stabilité et de paix dans le monde. Et puis, le premier ministre slovaque Robert Fico, grièvement blessé par balle mercredi, a été de nouveau opéré aujourd'hui et se trouve toujours dans un état grave, une situation qui plonge le pays dans l'incertitude à 3 semaines des élections européennes. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Vage.
Au Tchad, le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique, Boukhar Michel, a dit être insatisfait de l'état des travaux de la dorsale transsaharienne à fibre optique, soulignant que le retard des chantiers emmènera probablement le gouvernement à prendre une décision drastique. Financé par l'Union européenne et la Banque africaine de développement, ce projet lancé en mai 2023 prévoit une route de 560 km jusqu'à la frontière nigérienne et un réseau routier de 50 km à N'Djamena. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes a lancé un programme de renforcement des capacités du secteur postal. Cette première session se déroule jusqu'au 24 mai. La deuxième, qui portera sur les cadres juridiques du secteur postal, se tiendra du 8 au 19 juillet. Et la troisième, du 9 au 20 septembre, mettra l'accent sur la gestion financière et le suivi des performances. En Guinée, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique va bientôt faire réaliser l'audit de la couverture du réseau mobile pour identifier les zones mal ou pas du tout couvertes. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la mission de l'agence de garantir une connectivité universelle, prévoit notamment dans le contrat de partenariat l'acquisition d'un système d'information géographique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Demain se joue la finale aller de la Ligue des champions CAF.
Oui, l'Espérance de Tunis reçoit à la Ligue d'Égypte. Les Tunisiens cherchent à profiter de l'avantage du terrain. Face à la redoutable équipe d'Al Ahly, cette double confrontation met aux prises les deux équipes ayant le plus de participation à la finale de la Ligue des Champions. 8e finale pour l'Espérance de Tunis et 14e pour Al Ahly qui a pris part à 6 des 7 dernières finales de Ligue des Champions, remportant 3 d'entre elles. Une finale indécise selon Amin Birouk, notre consultant sportif à Casablanca au Maroc.
On a un souvenir, c'était la finale de 2018 où elle avait pris le dessus au match aller, mais on avait pu assister au retour à un retournement de situation de la part des Tunisiens qui avaient remporté largement cette finale. D'ailleurs, il y avait un back-to-back de la part de l'Espérance en 2018-2019. Donc, on a deux équipes qui ont l'ADN de la finale de la Champions League, l'ADN de cette compétition. C'est quasiment du 50-50 avec un petit avantage pour le national du Caire, égard à son expérience, son métier, cet ADN que le club Kerota, qui est, c'est le roi d'Afrique, c'est le Real Madrid, d'ailleurs, de la Champions League. Et on verra si c'est les Tunisiens qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu ou si les Égyptiens vont continuer à conserver et à maintenir cette suprématie sur le football continental.
Merci Amine Birouk. Dimanche va se jouer la finale retour de la Coupe CAF entre la Renaissance sportive de Berkane et les Égyptiens du Zamalek. Les Marocains de Berkane s'étaient imposés 2-1 à l'aller.
Joël Matip va quitter Liverpool à la fin de la saison.
Le défenseur central camerounais est en fin de contrat et va donc partir de Liverpool à l'issue de la saison. Selon l'annonce faite par le club anglais, Joël Matip, 32 ans, aura passé 8 saisons chez les Reds où il était arrivé sans indemnité de transfert à la fin de son contrat avec le club allemand de Schalke 04 en juillet 2016. L'ancien international camerounais a participé à 201 matchs avec Liverpool. Il y a remporté la Ligue des Champions en 2019 et le titre de champion d'Angleterre en 2020. Entre autres trophées.
Ici en playoff NBA, Minnesota croque Denver et pousse les Nuggets à un match 7 décisif.
amené comme souvent par Anthony Edwards, 27 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions. Et avec sa défense de fer, Minnesota a complètement étouffé Denver 115-70 à Minneapolis en demi-finale de la conférence Ouest. Les Timberwolves égalisent à 3 victoires partout et forcent les Nuggets, tenant du titre, à un match 7 décisif dans le Colorado. Côté Denver, le MVP 2023-2024, Nikola Jokic, a marqué 22 points et pris 9 rebonds pour l'une de ses rares sorties à moins de 50% de réussite au shoot. Les champions en titre auront néanmoins la balle de match à domicile dimanche.
Page de sport VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, ici VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les États-Unis appellent le Tchad à plus d'ouverture dans la vie politique après que le général Mahamat Idriss Déby Itno a remporté l'élection présidentielle. Washington reconnaît des lacunes inquiétantes, mais salue les étapes importantes du processus de transition au Tchad, selon le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Le président français Emmanuel Macron a aussi félicité Mahamat Idriss Déby Itno pour son élection à la présidence du Tchad. L'opposant Suseyi Masra a appelé pour sa part ses partisans à poursuivre pacifiquement le combat politique. Pour une analyse, Yakuba Ouedraogo a joint à Ouagadougou au Burkina Faso, Dani Aïda du National Democratic Institute.
Je crois que les positions à la fois de la France et des États-Unis traduisent un certain réalisme de cette diplomatie-là. Et au regard des positions de la géopolitique régionale, le rôle que joue la Russie dans la région, notamment du Sahel, le Tchad se retrouve au centre, disons, d'un jeu d'influence entre ces puissances-là. Donc, aussi de la France que les États-Unis ont préféré jouer à la prudence, prendre des précautions pour ne pas gêner ou déranger le régime Déby, en privilégiant le maintien de leurs relations à des positions antérieures de principe axées notamment sur le respect de la démocratie.
Les États-Unis disent, bien qu'il y ait eu des lacunes inquiétantes, nous saluons les étapes importantes du processus de transition au Tchad. C'est donc dit que les États-Unis reconnaissent que le processus électoral n'a pas été aussi transparent.
Ils ont pointé du doigt un nombre de dysfonctionnements et manque de transparence, ce qui est une réalité documentée. Maintenant, les États-Unis, par leur position, invitent les parties prenantes tchadiennes à passer à une autre étape du processus, ce qui marque la fin de la transition et la prochaine élection législative. On ne sait pas d'ici là ce que les États-Unis vont faire comme contribution à des partenaires du Tchad pour que ces prochains scrutins soient plus transparents. Il y a de quoi s'inquiéter du côté, en tout cas, de quelques partenaires tchadiens, sociétés civiles comme partis politiques, qui se sont investis dans des élections qui, en fin de compte, manquent de crédibilité, mais que les puissances étrangères, par intérêt et par opportunisme, sont obligées d'accepter.
Est-ce que c'est juste un jeu d'intérêt que de reconnaître l'élection de Mahamat Idriss Déby Itno?
Absolument, cela s'impose. En ce qui concerne la France, vous savez que le président Macron fait partie de ceux qui ont reconnu très tôt Mahamat Déby à la mort de son père. En plus de ça, vous savez qu'il y a eu une tentative de rapprochement de Mahamat Déby avec la Russie quelques temps avant cette élection. Donc ce sont des messages qui sont assez clairs. Et après ce qui s'est passé au niveau du Burkina Faso et du Niger, notamment les bases militaires aussi bien de la France et des États-Unis qui ont été obligées à quitter, je pense que ces deux puissances-là jouent à la prudence au Tchad pour ne pas subir le même sort.
Succès Masra avait fait un recours et après la confirmation des résultats par le Conseil constitutionnel, Succès Masra dit ne plus utiliser la voie juridique, mais plutôt appeler un combat pacifique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là selon vous et est-ce que la paix régnera dans les jours à venir au Tchad?
Je crois que Suseyi Masra, dans sa posture actuelle, et après avoir passé une expérience au niveau du gouvernement, joue aussi de cette manière à un certain réalisme d'opposition. Il préfère sans doute engager des discussions avec le régime en place pour voir quel espace de liberté il peut obtenir pour rester dans le pays et contribuer à la construction, et certainement pour participer aux prochaines consultations électorales. Donc, je crois qu'il prend acte aussi de ce qui s'est passé. Il déplore le fait que l'Agence nationale de gestion de l'élection n'a pas pris en compte ses réclamations. Mais en même temps, je crois qu'il est prêt à continuer à jouer sa partition pour que sans doute les prochaines élections se passent mieux que le scrutin présidentiel.
Dani Aïda du National Democratic Institute.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Les dirigeants américains et nigériens ont poursuivi ce vendredi des entretiens officiels de haut niveau sur les plans de retrait de toutes les forces militaires américaines du pays, a déclaré un responsable militaire américain à la VOA. Notre correspondante au Pentagone, Carla Babb, en dit plus sur l'impact de ce retrait sur la mission de lutte contre le terrorisme dans la région. C'est avec la voix de Gaby Dorsil.
Un responsable militaire américain a déclaré à la VOA que les dirigeants américains et nigériens se sont mis d'accord pour que les forces américaines commencent à se retirer progressivement du Niger dans les mois à venir, après une décennie de présence dans le pays. Selon cet officiel, les participants aux négociations de cette semaine ont confirmé les protections et immunités requises pour le personnel américain. Les autorités nigériennes ont également approuvé les autorisations diplomatiques pour les vols de retrait afin d'assurer des entrées et sorties en douceur pendant le retrait des forces américaines qui se trouvaient dans le pays pour aider les militaires locaux à combattre les terroristes islamistes dans le Sahel. Bill Rodjo, membre de la Fondation pour la Défense des Démocraties.
Countries like Mali, like Niger, like Nigeria.
Des pays comme le Mali, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso ont connu une montée expansive des mouvements djihadistes. Ce sont des régions parmi les plus dangereuses du monde.
Les États-Unis ont dépensé plus de 100 millions de dollars pour construire une base de drones près de la ville d'Agadez, au centre du Niger, afin de surveiller Al-Qaïda, l'État islamique et d'autres groupes terroristes. En raison du retrait, la base américaine mettra fin à la surveillance par drone dans cette région environ 5 ans après le début des opérations. Carla Martinez-Machain est professeure de sciences politiques à l'Université de Buffalo, dans l'État de New York.
Le Niger était un peu spécial en ce sens qu'il avait l'un des rares gouvernements démocratiquement élus de la région et qu'il avait également un gouvernement démocratiquement élu qui était amical envers les États-Unis et prêt à accueillir une présence militaire américaine. Il sera donc difficile de trouver un remplaçant à cette base militaire.
Martinez Machain dit que les États-Unis vont probablement tendre la main au Tchad voisin pour y baser plus de troupes américaines suite à l'élection présidentielle du 6 mai. Le Tchad et les États-Unis sont en train de revoir leurs accords de coopération en matière de sécurité. Le général de division Pat Ryder est l'attaché de presse du Pentagone.
Nous allons continuer à nous engager auprès des partenaires de la région en ce qui concerne le terrorisme et la lutte contre la menace terroriste parce que, encore une fois, je pense que nous pouvons tous travailler ensemble pour faire face à ces menaces très réelles.
Ce retrait est considéré comme un coup dur pour la lutte américaine contre le terrorisme. Sans base au Sahel, les drones américains devront voler à des milliers de kilomètres pour surveiller les groupes terroristes qui font des ravages dans la région.
Les électeurs américains disposent de plusieurs moyens pour voter lors d'une élection présidentielle, y compris par correspondance. De nombreux démocrates ont adopté le vote par correspondance et les dirigeants du Parti républicain, y compris l'ancien président Donald Trump, appellent eux aussi leurs membres à utiliser toutes les options de vote lors de l'élection générale de 2024. Véronica Balderas Iglesias nous donne plus de détails dans ce reportage, repris par Thierry Kaoré.
Un récent sondage Gallup révèle que l'enthousiasme pour les élections générales de novembre ici aux États-Unis est moyen parmi les électeurs. Mais certaines personnes ont déclaré au service espagnol de la VOA que le vote est un droit qu'il ne fallait pas considérer comme acquis. Pilar Kelly, étudiante à l'université de Duke.
Le vote est en quelque sorte le moyen le plus fondamental de faire entendre sa voix.
L'électrice républicaine Jenny Wilson a déclaré que les gens doivent voter pour des décisions qui aideront le pays.
Nous devons voter pour les choses dont nous savons qu'elles aideront notre pays.
Les Américains peuvent voter en personne le jour de l'élection ou de manière anticipée dans des bureaux de vote spécialisés. Ils peuvent également envoyer leur bulletin de vote par l'intermédiaire du service postal américain. Will Adler, du Bipartisan Policy Center.
Tous les États du pays autorisent une forme ou une autre de vote par correspondance. Ce qui les différencie, c'est l'exigence d'une excuse, par exemple l'absence de l'électeur de son domicile ou de son lieu de vote le jour de l'élection.
Dans les États qui proposent des programmes de vote par correspondance ou par anticipation, les électeurs inscrits reçoivent leur bulletin de vote automatiquement avant le jour du scrutin. Les mesures de distanciation sociale prises au début de la pandémie de COVID-19 ont renforcé les votes par correspondance. Les démocrates étaient plus nombreux que les républicains à l'adopter lors des scrutins de 2020 et 2022, d'après les enquêtes de Pew Research. Le président Joe Biden a toujours eu le même discours sur la question.
Le vote par correspondance est un moyen sûr et pratique d'inciter davantage de personnes à voter.
Son prédécesseur, Donald Trump, qui se présente à nouveau à l'élection présidentielle, a exprimé à plusieurs reprises sa crainte que le vote par correspondance ne donne lieu à des fraudes.
Le vote anticipé, c'est bien. Le vote universel par correspondance est très très mauvais. Il n'y a aucune chance qu'ils obtiennent des résultats exacts.
Mais depuis 2023, plusieurs élus républicains ont insisté sur la nécessité pour les électeurs d'utiliser toutes les formes de vote. Donald Trump s'y est également montré ouvert. Le 9 mai dernier, il a souligné sur sa plateforme Truth Social que le vote par correspondance, le vote anticipé et le vote le jour de l'élection sont tous de bonnes options. Les groupes qui tentent de mobiliser les électeurs républicains disent qu'ils veulent amoindrir l'avantage que les démocrates ont acquis en matière de vote par correspondance. Max Doxy est directeur politique du Republican State Leadership Committee.
Plus nous pourrons faire participer des électeurs au vote anticipé, au vote par correspondance grâce à nos efforts, plus nous serons en position de force le soir de l'élection.
Le comité démocrate de campagne législative a déclaré à la VOA qu'il ne pensait pas que les électeurs républicains seraient convaincus de changer d'avis. Le comité a également mis en garde contre la législation envisagée par les républicains de l'État pour bloquer les bulletins de vote envoyés par la poste avec des erreurs mineures et interdire les dépôts de bulletins de vote. Les experts affirment qu'il n'est pas facile de prédire l'impact que le vote par correspondance pourrait avoir sur les résultats des élections de cette année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, ouvert mardi à Abidjan, prend fin ce week-end. À l'affiche de la 16e édition du FEMUA, plusieurs stars de la musique africaine. Plus de 150 concerts gratuits sont prévus. Les organisateurs ont voulu mettre l'accent cette année sur la santé mentale. Le point avec notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenio.
Abidjan vibre au rythme du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le FEMUA, communément connu pour être une initiative du groupe ivoirien Magic System, en est à sa 16e édition cette année. Plus de 100 artistes, dont une quinzaine de dimensions internationales, sont invités pour l'occasion. Ils se produiront à Abidjan et à Farké-Sidjougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Salif Traoré, commissaire général du FEMUA 16.
Des concerts géants, au cours desquels les artistes porteront la voix. Le Canapou Jeunesse, cette tribune dédiée aux rencontres entre les jeunes et les experts. Le FEMUA Tigre, ce volet que nous dédions aux enfants pour leur épanouissement. Et le sport, qui est un excellent vecteur de valeur à l'instar de la musique.
La santé mentale des jeunes est le thème retenu pour la 16e édition du FEMUA. Les organisateurs du festival ont voulu mettre l'accent sur un problème crucial qui touche la Côte d'Ivoire et plusieurs pays africains. Des études ont montré en effet que la Côte d'Ivoire est le troisième pays africain où le taux de suicide est le plus élevé. Professeur Kouah Simon Médard, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale.
Il faut parler de ces jeunes qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'attention, de prise en charge. Et nous pensons qu'avec le mouvement porté par le FEMUA, Santé mentale des jeunes, c'est une vague, une mobilisation citoyenne, une mobilisation sociale au service d'une cause noble, parce qu'il s'agit de la vie, il s'agit de la santé, il s'agit du bien-être, il s'agit du développement des jeunes. Et pour nous, nous sommes satisfaits de la mobilisation historique des jeunes.
La Guinée-Bissau, pays invité d'honneur, sera présente tout au long du festival avec ses artistes, sa gastronomie et son savoir-faire. Ses autorités ainsi que ses artistes, invités pour l'occasion, ont fait part de leur reconnaissance suite au choix porté sur leur pays pour être l'invité d'honneur. Patidi Rima, artiste bissau-guinéen.
Le FEMUA pour moi c'est une ouverture de vraiment de ce qu'on a en grande vision au niveau de l'Afrique. L'intégration de l'Afrique à travers la culture et de la musique. Je suis trop fier de Gao Production, du groupe Magic System.
Au FEMUA 16, 150 concerts gratuits auront lieu, avec sur scène des stars comme Maître Gims, Yemi Alade ou encore Sarkozy. L'événement, qui lie musique et action sociale, a été créé par les membres du groupe Magic System. Au fil du temps, ce sont 12 écoles, un hôpital et un orphelinat qui ont été construits grâce à cet événement culturel panafricain. Ange Bijounomélian pour VOA Afrique, à Abidjan.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joël Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.